Le ballon est dans le centre du terrain. Pipkin regarde du côté droit. La passe. Elle est longue. Il est complètement seul. C'est complété. À demi-heure posée. Au 10. Au 5. Touché. Les Alouettes prennent les devants à leur première possession. Gracieuseté de demi-heure posée.
C'est ainsi que ça s'est amorcé hier, dernier et deuxième match préparatoire pour les Alouettes contre le Rouge et Noir au stade Percival Molson. Bruno Eppel avec nous. Bonsoir, Bruno.
Bonsoir, Mario. Ben oui, avec qui es-tu bon, Jean? Non, mais il est-tu bon?
Il nous a mis dedans un pointage de 20-20. 20-20 à l'issue de ce match-là. Il n'y a pas de prolongation dans des matchs préparatoires. Que penser? Commençons par les quarts arrière, puisqu'on a souligné une longue passe effectuée par Pipkin en début de match. Est-ce qu'il y a un véritable débat à savoir qui est le quart numéro un de cette équipe-là après deux matchs hors concours?
Mais, moi, je pense que oui. Personnellement, moi, c'est clair que Pipkin, qui a eu les deux départs en match pré-saison, pour moi, n'a pas donné suffisamment d'armes à l'entraîneur-chef pour dire il n'y a aucun débat. Là. Lorsqu'on est arrivé au meeting, là, après le match, on sait, il ne faut pas l'oublier, là, Mike Sherman et son groupe d'entraîneurs, après le match, sont montés en haut de la côte. C'est là qu'on a notre camp d'entraînement. Ils se sont réunis dans une salle de meeting puis se sont couchés probablement à 6 heures du matin. Là. On a discuté de l'alignement des Alouettes. Et quand est arrivée la question de quart arrière, je suis convaincu qu'on n'a pas été capable de dire hors de tout doute, Pipkin a remporté le droit d'être notre numéro un. Parce qu'il n'a pas été, ça n'a pas été assez concluant. Cette belle passe, oui, début de match, belle passe, 80 verges, on a besoin de gros jeux du côté de l'attaque des Alouettes. On a réalisé la passe du côté de Pipkin, mais par la suite, c'est un jeu de 80 verges. Il termine le match, je pense qu'il y a eu une trentaine de verges par la suite, par la passe, alors qu'on lui a donné les deux premiers quarts, ou presque au complet, là, du match. Pour moi, c'est pas concluant. À compléter encore seulement 50% de ses passes. Si tu veux être un carrière partant et performant dans la Ligue, qui donne une chance de gagner à son équipe, faut que tu sois dans du 65% de passes complétées et plus.
On n'est même pas proche.
50% hier, puis beaucoup moins la semaine passée. Fait qu'en bout de ligne, en deux matchs pré-saison, Pipkin, pour moi, n'a pas clos le débat. C'est loin de là. Et c'est pas à cause que les autres joueurs ont été extraordinaires à la position de carrière, c'est parce que Pipkin n'a pas été, pour moi, ce que je veux voir d'un carrière partant dans la Ligue canadienne.
J'ai pas vu les deux matchs, j'ai entendu des bouts de la description radio hier, mais celui qui a le meilleur ratio, il a pas eu beaucoup de ballons de longue minute, mais c'est le vétéran Jeff Matthews. Hier, il est 4-5, mais personne n'en parle, on parle surtout de Vernon Adams ou de Pipkin.
Je pense que du côté de Matthews, c'est pas le débat est pas mal clos qu'on se dit. On a vu ce qu'on allait, on sait ce qu'on va avoir de Matthews. Matthews, au fil des années, tu sais, on l'a vu depuis plusieurs années avoir la chance d'être partant avec les Tiger Cats. Par la suite, on l'a vu avec les Argonauts. C'est un gars, il va te donner, c'est un bon deuxième. C'est tout un vétéran. C'est un bon gars à avoir dans le vestiaire, dans la salle de meeting, mais je pense pas que ça peut être ton quart arrière partant. Il faut que tu y ailles, à mon avis, du côté de Pipkin ou Vernon Adams. Shields, malheureusement, pour moi, n'a pas été convaincant encore cette année. L'année passée, avait été blessé. Cette année, dans son camp d'entraînement, n'a pas été le joueur que j'aurais aimé voir. Fait que pour moi, c'est entre Vernon Adams et Pipkin, mais pas parce qu'il y en a un qui m'a prouvé encore qu'il est capable d'être numéro un. Malheureusement, je trouve qu'on arrive à la fin de notre camp d'entraînement et qu'on se pose encore la question si on a un corps numéro un dans notre équipe. Faut que le gars qui va être à la position de corps, on ait l'impression qu'on peut aller à la guerre avec. Là.
Et mesdames, messieurs, n'ajoutez pas votre appareil. Ceci n'est pas un extrait d'une conversation qui date de 4 ou 5 ans. C'est encore en 2019. Une interception lancée hier par les quarts des Alouettes. Hugo Richard qui a eu donc le ballon pendant quelques présences. Comment il s'est débrouillé? J'ai pas vu comment ça s'est produit, l'interception.
Écoute, on l'a mis à la décharge d'Hugo Richard. Première des choses, il a complété trois de ses trois premières passes.
3-4.
Dans le football, 3-4, mais trois passes complétées d'affilée. Et il faut pas l'oublier. Hugo Richard, moi, je suis allé aux entraînements des Alouettes. Il n'y en a pas de répétition. Là. Il y a 5-6 répétitions par match, là. Par pratique, excuse-moi. Il n'y a pas beaucoup de répétitions. Puis là, on l'a lancé dans le daily. Pour moi, il a été vraiment bon. Et lors de son interception, malheureusement pour lui, s'il complète cette passe-là, il y a probablement les Alouettes en position de placement, puis on gagne le match. Ça a été extraordinaire. On voyait le scénario se dérouler. Malheureusement pour lui, il y a eu un blitz qui l'a forcé à se déplacer. Ça l'a retardé son mouvement de passe. Et là, on a été capable de synchroniser du côté du demi-défensif, de couper devant le receveur de passe, parce que, évidemment, le synchronisme était défait, puis on a intercepté le ballon, ce qui a causé le match nul. Fait que moi, je blâmerai pas Hugo Richard là-dessus, sur cette interception-là. Au contraire, je vais juste dire qu'il a presque amené les Alouettes à gagner leur match pré-saison au Stade McGill, ce qui aurait été une histoire extraordinaire.
Maintenant, si on poursuit davantage en rafale aux autres positions, Bruno, ton évaluation, là, groupe par groupe, position par position, la ligne offensive, est-ce qu'elle a fait du bon travail?
Moi, je dirais qu'à l'attaque, point, au niveau de la protection de passe, elle a été excellente. On n'a pas accordé de sac du corps. Rappelons-nous, en 2018, ça a été un problème majeur. Et on se posait la question, est-ce qu'on va être capable de corriger le tir? Mais lors du deuxième match pré-saison, hier, pour moi, la protection de passe a été vraiment supérieure à ce qu'on a vu contre les Argonauts de Toronto et ce qu'on a vu l'an passé. Maintenant, il va falloir le transposer dans un match de saison régulière. Là, on va avoir nos 5 partants qui vont être établis. On va les nommer. Ils vont pratiquer ensemble parce qu'il ne faut pas l'oublier, là, dans les matchs pré-saison, Mario. Il y a eu beaucoup et dans les pratiques, on a fait des rotations. C'était jamais le même groupe qui pratiquait ensemble. Puis, pour avoir une bonne unité de 5 joueurs de ligne à l'attaque, il faut qu'ils pratiquent souvent ensemble. Pour moi, ça, c'est mission accomplie. Au sol, par contre, ce qui doit être une force pour les Alouettes de Montréal cette année, dans les 2 matchs pré-saison, surtout dans le match d'hier, on n'a pas été capable de donner la ligne de mêlée à notre gros porteur de ballon, Stand-back. Et ça, je veux voir une ligne à l'attaque plus dominante au niveau du sol lorsqu'on décide de courir avec le ballon, surtout sur les premiers jeux, pour aller donner des 4-5 verges, mettre les Alouettes en deuxième et 5, deuxième et 4, deuxième et court même. On n'a pas vu ça hier, il va falloir travailler là-dessus. Ça, c'est une chose que je veux voir être bien meilleure contre Edmonton.
Impression rapide sur l'ensemble du groupe de receveurs qu'on aura cette année, Bruno?
Bien meilleur que l'an passé. Et tu sais, quand on a vu Posse réaliser le gros jeu lors de la première séquence, on s'est pas ennuyé d'Ernest Jackson. On a vu aussi B.J. Cunningham, à un certain moment donné, capter un ballon là sur un blitz de l'équipe alors qu'il s'amenait sur un tracé à l'intérieur à 45 degrés. Il a plongé, il a attrapé le ballon pendant qu'il se faisait frapper. Encore une fois, une passe qui, l'an passé, était échappée par le groupe de receveurs. Moi, je pense qu'on s'est amélioré grandement à cette position-là cette année.
Un coup d'œil du côté de la défensive, comment tu trouves qu'on s'est débrouillé? Et question de mettre ça en perspective, quel calibre affrontait-on? Là? Qui on mettait sur le terrain du côté du Rouge et Noir? Unité A, B, C?
Non, c'est sûr qu'il faut se garder une gêne avec le match pré-saison parce que Ottawa va amener son équipe C, je te dirais. Les joueurs partants à plusieurs positions n'étaient pas là, puis même les backups, là, les substituts, je parle, mettons, à la position de carrière, c'est le troisième quart arrière qui jouait pour les Rouges et Noirs là, dans ce match-ci. Fait que face à la défense des Alouettes, c'était pas évident de se mettre en évidence parce qu'on avait tous nos partants du côté des Alouettes, mais on a dominé quand même lors de la première demi. Fait que moi, je vois ça comme quelque chose de positif. Ce que je vois, c'est une tertiaire qui est meilleure que l'an passé. Les acquisitions comme Loeffler ont beaucoup aidé. Un gars comme Carter Cromarty, des jeunes demi-défensifs, des gars physiques. On a des demi-défensifs qui, pour moi, vont être meilleurs que l'an passé, surtout plus physiques. Et au niveau de la ligne défensive, je veux voir plus de pression. Moi, ça m'inquiète un petit peu. J'ai bien aimé Simmons, une recrue, un gars qui est sur le coin, là, à l'opposé de Bowman. À mon avis, là, avec le match qu'il vient de jouer, c'est lui qu'on va voir à la position d'allié défensif à la place de Napton pour le premier match de la saison.
Est-ce que Boris Bédé a de la compétition au poste de batteur?
Absolument pas. Boris Bédé est tout seul dans cette compétition-là. C'est le joueur international, j'oublie son nom, c'est un batteur mexicain.
Yenny Romero, Enrique Gerardo.
Ouais, il n'est vraiment pas du calibre de Boris Bédé. Boris Bédé, même si, et c'est un peu dommage parce que le grandfather's rule empêche Boris Bédé de devenir le joueur international des Alouettes. Et aussi incroyable que ça puisse paraître. C'est pour des gars comme Boris Bédé qu'on a amené ce règlement-là. Et lui, jusqu'à présent, ça s'applique pas dans son cas parce qu'il est arrivé avant qu'on amène les joueurs internationaux. Boris Bédé, c'est un Français, là. Ce serait merveilleux si les Alouettes pouvaient le compter comme leur joueur international. Malheureusement, ils peuvent pas le faire.
Donc, sommairement, plus de positifs que de négatifs pour ce dernier match préparatoire à une semaine du début de la saison régulière à Edmonton vendredi prochain, Bruno?
Oui, il faut plus de positifs parce que j'ai vu des belles choses dans la tertiaire. J'ai vu des receveurs de passe faire des gros jeux. J'ai vu un Vernon Adams être dominant lorsqu'on l'a mis dans la mêlée. C'était pas longtemps, mais il a été dominant quand il était là. Pitkin n'a pas été mauvais, tu sais, mais il faut qu'on crée plus de choses en attaque. Moi, c'est vraiment là que je suis plus inquiet. Défensivement, je pense qu'on va être une meilleure défense que l'an passé.
Bruno, un gros merci. Je sais que tu nous parlais en direct du golf Château-Bromont. Salut tout le monde là-bas. Et c'était le tournoi de Steve Charbonneau de la Fondation des sports adaptés. Merci, Bruno.
Yes, sir, Mario.
Bye-bye et salut à Steve Charbonneau. Au retour de la pause, Patrice Brisebois nous parle de la Formule Peel, des festivités pendant le Grand Prix du Canada.